n'était pas à la page. Qui?
Tu le savais?
Ah,
non. Arrête.
Commence. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Bon. Au hasard. Bien, alors on est au chet. Vayashkem Yaakov à Boker, Vaykach et à Even. Yaakov Avinu s'est levé le matin. Yashkem, ça veut dire se lever très tôt. Vaykach et à Even. Et il a pris la pierre, la fameuse pierre sur laquelle. La pierre qui s'est formée. Oui, on enregistre. La pierre qui s'était formée avec a priori les autres, les pierres qu'il avait, les 12 pierres ou 3 pierres. Vaitzok Shemen al-Rosha, et il a versé de l'huile au haut de la pierre. Shupalo mina shamaim. Kimlo piapach. C'est-à-dire, ça lui a été en quelque sorte versé, comme si c'était versé à partir d'un par. Par shemen, c'est les petits récipients qu'on utilise à Hanouka. Choupalo mina shamaim, ça lui a été versé du ciel. Vulam luz, et toutefois cette ville, cet endroit que lui là, dont il a dit que c'était la porte du ciel, etc., s'appelait luz. C'est pas de l'espagnol. Il lose chez Tzovin Ba et Atrelet. Il lose chez Allah Sancheriv Vlo Bilbela. Nevuchadnezzar Vlo Echeriva. Il lose chez Loshalat Ba Malachamavet Meolam. Cette ville de Luz, elle a l'air d'être décrite ici comme la ville de Kushta dans la Gemara. Parce que là, le Midrash continue et dit, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, n'a pas de pouvoir à Luz. Alors, Azkenim Sheba, les anciens, les personnes âgées à Luz, qui en avaient marre de la vie, comment est-ce qu'ils faisaient? Ou qu'est-ce qu'on leur faisait? Kevan Shem Zkenim Arbe, quand ils devenaient très vieux, Motsim, Motam, là on a l'impression que ce sont les gens, leurs enfants, leurs petits-enfants qui les sortent, c'est pas eux qui. Chutz Lachoma, en dehors des murailles de Luz, Vem Metim, et ils meurent. Vous connaissez, c'est exactement ce qu'il y avait dans la ville qui s'appelait Kushta. Kushta en araméen, ça veut dire la vérité. Agmar, il dit. Il y avait une ville qui s'appelait Kushta, dans laquelle les gens ne mentaient jamais. Et dans cette ville, on ne mourait jamais. Et la Mara, elle dit que comment est-ce qu'on faisait quand les anciens, quand ils en avaient marre de la vie, ils sortaient de la ville et ils mouraient. Mais on ne mourait pas dans la ville. Un jour, quelqu'un est arrivé, il a demandé à s'installer à Kushta. On lui a donné les conditions, il a dit « Ok, je les accepte. » Et puis un jour, ces gens-là, ils ont perdu un enfant. Alors, les gens de Kushta sont venus en délégation, ils lui ont dit, comment c'est possible, tu as dû dire un mensonge, on ne meurt pas chez nous. Alors, il a dit, j'ai pas menti, la voisine, elle est venue demander quelque chose à mon épouse, et mon épouse était dans un endroit où je ne pouvais pas dire qu'elle était, donc j'ai dit qu'elle était absente. La halakha est que, pour des raisons de tzniout, on doit mentir. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire à l'extérieur. Donc on ment. Il y a une espèce de mentir vrai, quoi. Alors ils l'ont dit, écoute, s'il te plaît, quitte cette ville. Quitte cette ville parce que tu amènes la mort dans la ville et nous, on ne veut pas de ça. Alors c'est une ville dans laquelle, quelque part, on ne pouvait pas vivre non plus d'après la halakha. Puisque la halakha est qu'il faut, dans certains cas, on ment. Et là, c'est décrit sans l'histoire en question, mais on décrit Luz comme étant ce que Luz est ici décrite comme si elle était Kushta. Alors, on va revenir sur toutes ces caractéristiques de cette ville de Luz. Et la malikrashma à Luz, kol mi shenichnas ba itrif mitzvot ou maasim tovim ki Luz. C'est parce que tout celui qui entre dans cette ville, il avait ces mitzvot et ces maasim tovim éclataient comme Luz ici s'est vu, semble-t-il, s'est présenté comme si le mot Luz voulait dire ici une kedia, c'est-à-dire une amende. Pourquoi ce serait ça le modèle, ça on verra. Oui, c'est la amende. C'est la shkedia, c'est comme Rabbanan amre ma luz en la paix, kach lo ya adam yachol la'amod al pitcha shel ir. De la même manière que la luz et la bouche, c'est-à-dire c'est complètement lisse, il n'y a pas dans l'amande, il n'y a pas de cavité de partie creuse, comme il y aurait là où il y a la tige dans un autre fruit, dans une prune, comme ça. De la même manière, donc ça s'appelle en la paix, il n'y a pas d'ouverture. Car lo haya adam yachol la'amod al pitcha shel ir. De la même manière, un homme ne pouvait pas se tenir à l'ouverture, pitcha, de la ville de Luz. Amarav Simon, Luz haya omed al pitcha shel ir. Il y avait un amandier à la porte de la ville. Rabbi Elazar, b'shem Rabbi Pinchas bar Chama, amar, Luz haya omed al pitcha shel ma'ara. Il y avait un amandier qui était à la porte d'une grotte. Vaya Luz chalul ve'hayu nichnasim derech haluz la ma'ara. Et l'amandier, il était creux. C'est-à-dire probablement que il y avait deux parties, et on pouvait traverser l'amandier, et on entrait dans l'amandier bouchait la porte, bouchait l'ouverture de la grotte, sauf qu'il y avait un trou dans l'amandier, et on pouvait, en traversant l'amandier, on pouvait entrer dans la grotte. Et derech ha-me'ara la'ir. Et cette caverne là, cette grotte, elle était à l'entrée de la ville, et pour entrer dans la ville, il fallait en passer par la grotte. Donc il fallait traverser la mendier, ensuite traverser la grotte, et ensuite on pouvait entrer dans la ville. Adaudirtiv, c'est ce qui correspond à ce qui est écrit dans Shoftim. Vayiru Hashomrim, Ish Yotse Minahir, les gardiens ont vu un homme sortir de la ville. Vayomru lo, ils lui ont dit, Areinuna, et me voahir. Dis-nous comment on accède à la ville. Vayaku et Hahir, le Ficharet. Et quand il leur a dit comment on accédait à la ville, alors ceux qui faisaient le siège de la ville ont pu entrer dans la ville, et ils ont détruit la ville, ils ont passé la ville au fil de l'épée. Ve'et ha'ish ve'et kol mishpachto shilechu. Mais l'homme et toute sa famille ont été épargnés. Rabbi Yanaï, Rabbi Ishmael, עבד לה הפטרה. מה עם זה? Je ne sais pas pourquoi c'est au singulier. מה עם זה שלא הלך לא בידיו ולא ברגליו אלא שהרה להם באצבע ניצול מן הפורנות? De même que celui qui leur a indiqué l'entrée dans la ville, il n'a rien fait, il n'a pas fait un pas, il n'a pas fait un geste. Simplement, il leur a indiqué avec le doigt, il n'a pas fait le geste de la main, il a pointé avec son doigt. Ça a suffi pour le sauver des Pouranout, ça, il a été sauvé. Israël, Kosim Chesed im Gdolehem, Bidehem ou Vraglehem. Israël qui font du Chesed avec leurs grands, avec les grands personnages, avec leurs pieds et leurs mains. Alachad Kama Vechama. À plus forte raison qu'ils sont sauvés de Pouanout. Voilà. Bon, alors je pense que vous avez compris. Donc on va passer au chapitre suivant. C'est plusieurs petits morceaux. Vayashkem Yaakov Baboker, je vais prendre les deux. Yaakov Avinu, quand il s'est réveillé, il a apporté ce que l'on appellerait un korban. Le korban, en l'occurrence, ça consistait à élever une stèle, une dalle, si vous voulez, verticale, et à verser de l'huile au sommet de la dalle. Cette huile, elle allait couler le long de la stèle. Alors, le Midrash dit à ce sujet que lui, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il a versé Shemen al-Rosha sur la haut de la stèle. La stèle était comme ça, il a versé de l'huile, l'huile a coulé. Mais le Midrash dit Shupa lo min ha-shamayim kum lo pi apach. Littéralement, ça veut dire il lui a été déversé du ciel une quantité qui correspond melo pi apach sur toute l'ouverture du parc, de la fiole, Oui, du récipient à partir duquel il versait l'huile. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous dit ici? Le Hetz Yosef dit Shupalo min hashamayim kim lo piapach. Vechenu le kaman. Et il ramène au nom de Yvetoire, de commentateur standard, qui s'étonne et qui se dit, mais d'où est-ce que Yaakov avait de l'huile pour faire ça? Donc le Midrash répond à la question. L'huile, elle lui a été donnée, elle s'est donnée du ciel. Ça, c'est ce que dit le Hetz Yosef. Et le Marzou, il dit chez Minayin haya le Yaakov Shemen Bamidbar, chez Alach Beraglav, il était à pied, Yaakov, il ne transportait pas des tonneaux d'huile, des jarres d'huile, des choses comme ça. C'est marqué que Baïssa Yaakov Raglav, Bayelech. אלא ששופה לו מן השמיים ומרומז בפסוקים שדרש לאל ושמן ימינו יקרא כשהיה את פני רעהו יחד etc. Bon, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un remez dans le texte plus bas que effectivement ça lui a été déversé du ciel. Et cette expression que melo à part, c'est chez nous c'est qui melo pi à part. Ça fait référence à l'onction, à l'huile d'onction que Shmuel a utilisée pour oindre le roi. Mais dans les Likoutim, sur la marge de droite, en bas à droite, il rapporte, Shupalo, il dit, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est en fait une allusion à la prophétie qui dit que Shupalo min hashamayim ki al yedei ha-peulot le mata נתרבה עליו השפע מלמעלה כנודע מהקורבנות. Il dit ici, c'est le même processus que le processus des corbanot. Le processus des corbanot, c'est un processus dans lequel on fait les choses, nous, en bas, les hommes font les choses dans le monde d'en bas, et ces gestes-là induisent dans le monde d'en haut des gestes analogues. Donc si lui déverse de l'huile, alors il lui est déversé à lui aussi de l'huile, mais l'huile spirituelle, c'est la nevoie. C'est-à-dire c'est la prophétie qui est comparée à l'huile. Donc cette idée-là, c'est que ce geste-là est un geste par lequel il prépare la suite des événements, c'est-à-dire il se prépare à être prophète en fait. Il prépare sa nevoie. Il prépare tout. On sait très bien qu'il y a la communauté Navi. On sait bien que la nevoie, lui, par la suite, elle va disparaître au moment pendant la période où il ne saura pas ce qui est advenu de Yosef. Il pensera que Yosef est mort. Dans ce temps-là, il n'aura plus de nevoie. Donc, tout le reste du temps, il était Navi. Et la nevoie, en quelque sorte, elle vient de ce que. De ce qu'il a fait là, c'est-à-dire comme si le Midrash voulait dire la nevoie, ça vient pas comme ça, Ça ne vient pas sans que l'homme ait fait quelque chose pour ça. Et il faut même qu'il fasse le geste de verser quelque chose de haut en bas pour que la nevoie vienne donc elle aussi de haut en bas et que ça lui soit donné à pleine mesure en quelque sorte. Parce qu'on a l'impression qu'il a dit qu'il me l'a pis à part, qu'il me l'a à part. Ça veut dire qu'il a versé avec la totalité de ce qu'on pouvait verser généreusement, quoi, en quelque sorte. Il n'a pas laissé couler un filet d'huile. Non, il a renversé l'huile de sorte que ça dégouline. Récemment. Donc c'était une façon d'induire sa nevoie comme quelque chose qui est déversé, qui vient du ciel et qui se déverse sur lui. Dans les corbanotes, c'est la même chose. Dans le corbanote, les gestes que nous faisons sont des gestes extrêmement matériels. Tu fais la shrita à l'animal, tu brûles un animal, etc. Tout ça, c'est des choses extrêmement matérielles. Ou bien on mange la viande de l'animal, ou bien on fait une crêpe et on donne un petit morceau, etc. C'est des choses tout à fait matérielles. Alors on veut dire ici, en quoi est-ce que ça rapproche d'Hachem ? Parce que ça induit dans le monde d'en haut, ça induit des démarches du monde d'en haut, c'est-à-dire ça, évidemment les démarches du monde d'en haut, ça consiste à donner de haut en bas dans le monde d'en bas. Donc on fait cette approche que nous faisons, en quelque sorte, par le korban. J'essaie de m'approcher, mais comment est-ce que je peux m'approcher ? Ben, j'induis le fait que Hachem va s'approcher de moi. Parce qu'il y a une espèce d'induction d'induction qui vient le geste de celui qui vient là, qui va à la rencontre d'Hachem. Hachem vient à sa rencontre. Et donc si je veux qu'Hachem vienne à ma rencontre, il faut que je vienne à sa rencontre. Et le geste, comment est-ce que je peux aller à la rencontre d'Hachem? Alors il y a les conduites, etc. Et physiquement, concrètement, on fait ce geste-là, ces gestes-là qui sont faits dans les corbanotes. C'est ce qu'il a fait, lui, c'est cette démarche, parce que quel sens ça a de verser de l'huile sur une dalle, si vous voulez. Apporter un corban, non, c'est présenté comme c'est l'achmi, c'est mon pain, etc. C'est comme si le misbeach consommait quelque chose. Il y a une consommation. Comme une consommation, en fait.
Qu'est-ce que c'est l'ouverture ?
J'ai pas compris.
Qu'est-ce que c'est l'ouverture ? Parce qu'on dit qu'il a versé sur l'ouverture.
Non, il a versé kimelo pi apach. Il a versé avec la pleine ouverture, c'est-à-dire que tu peux faire couler un filet d'huile, ou bien tu peux verser de telle sorte que l'huile que tu déverses, elle remplisse complètement le diamètre du tuyau par lequel tu verses, l'ouverture de... C'est marqué, Maïtsok. Shemen al Rocha. Mais pas dans le verset.
Non, c'est comme...
Oui, pi c'est la bouche de...
Ce serait donc l'entrée du tuyau, je cherche le nom.
Pi à part, c'est l'ouverture du récipient de une fiole, elle a une ouverture. Bon, c'est l'ouverture, il a rempli la fiole.
Et c'est quoi, mais c'est le pota? Pota, c'est quoi le pota? De quoi le ça veut dire quoi? Ça fait référence à quoi?
Parce qu'il a pris la pierre, elle était comme ça, il a couché, il avait sa tête comme ça. Yatsiv, ça veut dire vertical. Il l'a redressé, il a dressé la pierre.
Donc Even, c'est
une pierre, c'est la pierre qui était Cette pierre-là, c'est la pierre sur laquelle il avait dormi. Alors, il a pris la pierre, Vaikar, Taven, et il l'a dressée.
Donc lui, en tout cas, il continue, mais il ne répond pas à la question d'où sort l'huile.
Mais il n'a pas besoin, parce qu'il n'a pas besoin, les autres ont déjà répondu.
Mais
ça vient du ciel.
Cette question-là.
Pardon ? Il se demande, le Midrash, semble-t-il, il dit Mina Shamaim, ça veut que le Midrash se dit, mais d'où il avait de l'huile ? Alors en fait, ça veut déjà dire, ça aussi, c'est ça qui est. C'est là le point suivant dans les Korbanot, c'est que si on voit ça comme le Korbanot, ça veut dire qu'est-ce qu'a fait lui ? Lui, il a versé de l'huile qu'on lui a donnée, qu'Hachem lui a donnée, et il la verse pour Hachem, en fait, comme Korban. Mais tous les commandements, c'est aussi comme ça. Qu'est-ce que je donne à Hachem ? Les choses qu'il m'a données. Donc il y a cette idée que ce qui est important dans la démarche, ce sont les gestes, c'est pas le fait que ça m'appartient. C'est pas ici l'idée que la chose m'appartient, parce que même si ça m'appartient pas, c'est déjà une valeur. Mais il faut pas non plus imaginer que je peux faire ça avec des choses volées. La Gemara dans Chagiga, on avait vu que on pourrait se demander, en fait. Le problème, c'est mitzvah bavavera. Mais je pourrais dire, comme de toute façon, ce qui compte, ce que je t'aime, je lui donne rien. Donc c'est le geste. Alors est-ce que je peux, le geste, est-ce que je le, peu importe, ce qui appartient à l'autre, ça vient, c'est aussi Hachem qui lui a donné. Donc que ce soit chez moi ou chez l'autre, ce sont des choses que Hachem a données dans le monde. Alors je peux prendre la chose que chez l'autre et je la porte, puisque le geste je l'aurais fait, et c'est pas important que ce soit moi. Alors c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu sonne gazel beola. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a de la haine pour, même quand on lui donne quelque chose qui est une ola, c'est-à-dire encore un holocauste, c'est-à-dire quelque chose qui est entièrement consumé, d'accord ? Donc ça veut dire le bonhomme, il pourrait dire, mais moi je prends rien de tout ça, je le donne à Hachem. Donc le geste est important, je prends rien, je lui ai rien pris parce que de manière Hachem lui rendra s'il doit lui donner, et puis bon, voilà. C'est... Et donc on pourrait penser ça, on dit non, Akadosh Baruch Hu, il a de la haine pour ceux qui volent, même quand c'est pour donner une hola, c'est-à-dire même quand c'est pour le donner entièrement à Hachem. Ça aussi, oui. Alors, vous voulez bien lire le verset de 18 là? Vayashkem à Yaakov à Boker, Vaikar ta Even. Voilà. Ça c'est le verset. Ce qui nous manque ici, le Vegomer, c'est simplement la pierre qu'il avait utilisée comme oreiller en fait. C'est donc cette pierre-là qu'il a prise. Et ensuite, le verset suivant. Rishona. C'est-à-dire, en fait, cette ville... Lui, puisqu'il a décidé, au vu de ce qu'il avait rêvé, etc., il a décidé que c'était cet endroit-là, c'est la maison d'Hachem. Beth, c'est la maison d'eux, et qu'elle, c'est la maison du Dieu, en fait. Alors, il dit, ça, c'est le nom que lui lui a donné. Mais cet endroit-là, il avait déjà un nom. Et ça s'appelait Luz. Cette ville de Louz, enfin cet endroit, cette ville de Louz, elle avait des caractéristiques qu'on va voir tout de suite. Mais donc le premier problème qu'on doit voir ici, c'est cette ville qui avait un nom. Pourquoi est-ce qu'il lui donne un autre nom? C'est-à-dire qu'il peut dire, c'est le Bethach. Je vois que Luz est la maison de, c'est la maison d'un chien. On n'a pas besoin de changer son nom. C'est une démarche intéressante. Elle a des qualités, elle est connue, cette ville de Luz, comme telle. Et lui vient, il lui change son nom. En plus, on peut se demander qui est-ce qui va s'occuper de ce que Yaakov décide. Qu'est-ce que c'est Yaakov ici? C'est quelqu'un qui est en train de fuir la maison paternelle, quasiment. Il va se faire rattraper, si ce n'est pas déjà fait, par Eliphaz. Il n'a pas un sou, aucun pouvoir, complètement démuni. Et lui, il se met à donner des noms aux endroits. Et les endroits ont des... Voilà. Un petit jeune, là, qui tout à coup... Bon, il n'est plus si jeune, mais par rapport au fond, qu'est-ce qu'il est, là, pour donner des noms? En plus, lui, il veut, et la Torah, elle va garder son nom, elle va accepter le nom qu'il lui a donné, et c'est ça, désormais, c'est son nom. Il y a un petit juif, là, qui est venu, et qui a donné un nom à une ville qui en avait déjà un. Cette ville, c'était pas une ville juive, évidemment. Il n'y a pas de ville juive. Cette ville-là, c'est une ville cananéenne, quelque chose comme ça. C'est Knan qui habite là.
C'est ça?
C'est Canaan qui habite là. Ouais, c'est pas cette histoire-là, c'est avec quelqu'un d'autre, c'est pas elle. Il y a eu aussi de nouveau quelqu'un qui s'est sauvé grâce au fait qu'il a aidé les Bnei Israël à pénétrer dans... C'est un texte de Shoftim au début, c'est un texte qui parle de la conquête, justement.
Est-ce que cette espèce fait référence à ce qui a été épargné parce qu'il a aidé?
Oui, bien sûr, on va voir, on va essayer de voir ce qui se passe. Alors maintenant, le fait qu'il change les noms, enfin le nom, en fonction d'une expérience qu'il a faite, qui lui a montré que c'est le Beth Amikdash, c'est le lieu du Beth Amikdash. Maintenant, ça aussi c'est un peu surprenant. Il l'appelle Bait. Il n'y a pas de maison là. C'est la maison d'Hachem. Il n'y a pas de maison. C'est un endroit où il a posé des pierres et il s'est couché. Il avait son sac de couchage, il a ouvert son sac de couchage, il s'est couché. Et puis voilà, c'est... Il appelle ça la maison d'Hachem, la maison du Dieu, en fait. On peut dire que c'est évidemment, non pas réminiscent, mais disons, on projette ici ce qui va être, à cet endroit-là, la maison d'Hachem va être, le Beth Hachem, le Beth Amikdash va être construit. Oui.
Il y a toutes les choses.
Justement, oui, mais pourquoi? Ah, oui, pourquoi t'appelles ça un bait? Il n'y a aucune forme de bait.
Mais un gros monde en général, c'est.
En général, mais là, en l'occurrence, lui, et puis en plus, l'argent où on dort.
Il a posé ses pierres autour de sa tête, voilà, pour s'entrer sa petite maison.
C'est la première fois, en tout cas, qu'on voit, puisqu'on parle de nomination, qu'on voit que c'est une ville. Le Makom devient ville. Alors que là, encore le Midrash, il dit, là, il se balade dans le désert.
Oui.
Et
c'était tout au plus une oasis, je ne sais pas, quelque chose comme ça.
Et une ville, ça veut dire qu'il y a des habitants, et là, là encore, voilà.
Alors, il y a des habitants. Luz, c'est une ville. On va voir que c'est une ville en réalité.
Donc, en fait, ville, lui, il vient et puis il met sa pierre.
Donc. C'est très possible que, qu'en fait, il n'est pas entré dans la ville. Il n'a pas voulu entrer dans la ville. Par la suite, on verra que, à la fin de son périple, quand il reviendra, Shrem là-bas, non plus, il n'entrera pas dans la ville. Il va camper à l'extérieur, il va définir le troum, il va leur apporter des choses, etc. Et il n'entre peut-être pas dans la ville parce que la ville est peut-être un lieu d'idolâtrie, je veux dire, c'est peut-être qu'il ne veut pas entrer dans la ville. Parce que il y a plein de. Il y a trop de temples idolâtres, etc. Et donc il ne va pas entrer.
Les villes, elles sont
fermées
la nuit.
Oui, enfin bon. Oui, mais le soleil s'est couché plus tôt. Je ne sais pas si les gens s'est couché pour eux aussi, plus tôt. En tout cas, c'est le matin. Il se lève très tôt. Et il nomme cette ville. Et on nous dit Ve'ulam. Et le texte Ve'ulam, et toutefois. Comme si Oulam voulait dire ici peut-être néanmoins, bien que lui il l'ait nommé Bethel, Oulam, Luz, elle s'appelle Luz.
Mais il l'avait déjà nommé Bethel, il avait déjà ce nom Bethel.
Quand, où? Mais non, parce que la Gemara, la Torah, elle l'appelle Bethel parce qu'il va s'appeler comme ça. Elle dit où est-ce qu'il s'installe entre ça et ça, c'est ça?
Oui, mais il l'appelle l'endroit Bethel.
C'est ça, c'est ici.
Oui.
C'est ici qu'il l'appelle.
Et là, il l'appelle parce que c'est un deuxième Bethel.
Oui.
C'est l'obligation. Il y a des fois de il y a des phrases dans la Torah où on nous dit et cette ville jusqu'à aujourd'hui se nomme temple. Hein, c'est pas le cas ici et à ma connaissance et c'est pas la et ça en fait ce nom de Bethel d'abord un nom on le porte que s'il y a des gens qui ont envie de le porter parce que s'il s'agit pas de le décider c'est seul dans son coin et c'est pas c'est Yerushalayim c'est pas Bethel. Donc ce nom de Bethel, il a demeuré, il y a des gens qui habitent Bethel.
Oui, il y a des gens de Bethel.
Mais oui, mais alors est-ce que c'est le Bethel d'aujourd'hui ou c'est Harabaït, c'est-à-dire Yerushalayim?
Oui.
L'endroit où on rappelle comment ça s'appelait avant, c'est parce que le chef Dan est remonté et qu'il a construit sa ville, et, alors que la ville avant s'appelait. On rappelle l'ancien nom.
C'est pas comme ça. C'est écrit dans le Pasuk Yudzaïn Vayira Vayomar Man Nora Amakom. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit qu'il est terrible ce lieu. Enze ki im bet Elohim. Ce n'est que la maison d'Elohim. Vezé Shar Hashamayim, et c'est la porte du. À ce moment-là, Vayashkem, il s'est levé très tôt, Baboker. Il a pris Taeven, la pierre, Ashasamer Ashotav. Vayasem Ota Matseva, et il l'a posé verticale, il en a fait une stèle. Vaitzok Shemen al Rosha, il a versé de l'huile sur la, au sommet de cette pierre. Vaikra et Shem Amakom Aou Betel. Ce lieu-là, il l'a appelé Betel. Vulam, toutefois, Luz, Shemahir la Rishona. Toutefois, cette ville, elle s'appelait, au début, elle s'appelait Luz. Ici, c'est écrit dans Rashi, sur Bethel. Je sais pas, c'est un vieux Rashi, je sais pas. L'Ozeu Asamuch le Haï. C'est pas le Bethel qui est proche de Haï. Et là, l'Yerushalayim. C'est un Bethel qui est proche d'Yerushalayim. Vashem She'aita Ira Elohim. Parce qu'elle est la ville d'Elohim. Parce que là-bas, ici. Kara Bethel. והוא הר המוריה שהתפלל בו אברהם והוא השדה שהתפלל בו יצחק וכן בגמרא לכו ונעלה אצטרה לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה אלא כיעקב שקראו בית כמו בית אל עד כאן פירוש רשי מדויק ici un רשי dans l'éditeur ici dit c'est un רשי très précis
comment est-ce que ça dépend de
Non.
Est-ce que c'est, bon
c'est pas que le Sadeh est un har. C'est lui, il l'appelait har, parce que le lieu en question, d'abord si c'est l'Har Moria, parce que le lieu en question pour lui, c'était quelque chose qui apparaissait comme une montagne. Abraham Avinu, il était impressionné par la hauteur. Yitzhak Avinu, il l'appelait Sadeh. Le Sadeh, c'est un lieu de travail. Il a considéré la Avoda. Bon. Pourquoi ça l'est? Parce que le Bet Amigdash est un lieu d'Avoda. Donc là, le lieu de l'Avoda, c'est un Sadeh. Et lui, Yaakov, il a appelé sa Baït parce qu'il s'est trouvé bien, en quelque sorte. Il s'est trouvé protégé par Hachem, pris en charge, etc. Alors qu'il était démuni, etc. Alors il a appelé sa Baït. Pour lui, le Bet Amigdash, c'est ce terme-là qui est resté. Maintenant, quand on parle de c'est Har HaBait, c'est-à-dire le Har est au service du Bait, en quelque sorte. C'est le Har HaMoria, il est au service du Bait. Mais c'est très possible que ça ne corresponde pas. Pourquoi il l'appelle Sadé? C'est une façon de parler. Mais maintenant, bon, alors il appelle ça Oulam Luz. Toutefois, elle s'appelle Luz. Cette ville. Et c'est très possible que les gens continuent là.
Il y a un mashmaout, il y a un sens.
En espagnol, je sais, mais autrement, en français, je ne sais pas. Alors voilà ce qu'on sait dire de Luz. Hi Luz shetzovim ba et atchelet. Alors Luz, c'est la ville où on teint, c'est-à-dire on utilise, là-bas ils sont des spécialistes probablement de la teinture de Tchelet. Non, peut-être que le poisson, il était, a priori, l'ouze n'est pas tellement au bord de la mer. S'il est près d'Yerushalayim, c'est un peu difficile. Mais peut-être qu'on transportait on travaillait. Tsovim, c'est-à-dire on teignait. C'est le lieu de la teinte. Et lui rapporte dans le Marzou une girsa qui disait, chez Tsovim, bat Trelet, le Chol Israël. Ça, c'est une première chose. Alors, on va essayer de trouver un fil conducteur, n'est-ce pas, sur cette caractéristique de Luz, de Bethel. D'abord, c'est le lieu où on teint, on fabrique le trellet. Voilà. Hilouz Shiala Sancheriv Velobilbela. Cette ville, elle est tout à fait particulière. Le Sancheriv, il est réputé pour avoir été Mebalbel Taolam Kulo. On considère que Sancheriv, qui était le roi d'Assyrie, il a été Mebalbel le monde, c'est-à-dire il a complètement bousculé le monde. La technique des Assyriens, quand ils avaient gagné la guerre, ils faisaient les transferts de population. C'est pour ça qu'après Sancheriv, plus personne, Rome n'est plus dans Rome, ça veut dire plus personne n'est à sa place. Et c'est grâce à Sancheriv que, par exemple, on peut épouser un guerre sans se poser la question, est-ce qu'il n'est pas par hasard un guerre des Sheva Umot, des sept peuples cananéens avec lesquels on n'a pas le droit de se marier. Mais comme plus personne n'est à sa place, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de safek sur... Il n'y a pas... S'il y avait un endroit qu'à vous, alors on aurait un problème. Donc, ce Sancheriv, il a été mebalbel le monde entier, et il y a une ville, un endroit, qui n'a pas été mebalbel. Il n'a pas réussi. L'Obilbela. Luz est resté à sa place avec ses gens, etc. Comme si, si vous voulez, vous avez un espèce de tourbillon général, et puis le cœur, il y a un point fixe, le point fixe autour duquel tout a tourné, de tout ce bilboule s'est fait, le point fixe, c'est Luz. Ensuite, Nebuchadnezzar, il a détruit des tas de villes en Israël, détruit Yerushalayim, mais Luz, il ne l'a pas détruite. Espèce de ville indestructible, n'est-ce pas? Indestructible, inaltérable en fait. Luz, Shiloshalat Bamalachamav et Meolam. Il y a un endroit dans le monde, une singularité dans le monde, où le Malachamav est. Il n'a pas le droit de citer. L'ange de la mort ne peut pas entrer. Il n'a pas de pouvoir là-bas. On ne meurt pas. C'est-à-dire, c'est un endroit où la condition, enfin, cet aspect de la condition d'Adam Arishon est resté. On ne meurt pas là-bas. Tout le monde est mortel, mais à Luz, on ne meurt pas. Si tu veux mourir, il faut en sortir. Mais du coup, ça a imposé aux gens de Luz le traitement des vieillards. Qu'est-ce qu'on fait avec les vieillards? Ici, ce midrash, il a l'air de dire que les vieillards ne se suicidaient pas tout seuls. Il fallait les aider. Ça veut dire qu'il fallait les sortir. Quand ils sortaient de la ville, alors, vu leur âge, ils mouraient. Il me semble que dans la Gemara, j'avais l'impression que dans la Gemara, c'était plutôt que c'est eux qui n'avaient plus envie de vivre. Classe, ça suffit, on a vécu assez longtemps. Donc eux, ils sortaient, volontaires. Donc là, c'était. Le suicide n'était pas assisté. Ils sortaient tout seuls. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est tout à fait singulier, n'est-ce pas? La mort n'a pas de. N'a pas de prise à cet endroit-là. Alors maintenant, on va regarder, après que Yaakov ait décidé de changer le nom de cette ville, on va quand même se demander, mais pourquoi elle s'appelait comme ça? Pourquoi s'appelait-elle Luz? Il semble qu'elle s'appelait Amandier. Luz, c'est un amandier. Amande ou amandier. Parce qu'il y a y a une ville qui porte un nom proche de l'amande. Pardon ?
Shkedim.
Vous connaissez une ville qui s'appelle Shkedim ?
Non, je ne sais pas.
Pardon ? Pardon ?
Shkedim.
Shkedia. Shkedia. Bon, à part Mandelieu, je ne sais pas. Mandelieu, c'est une amende. Enfin, il faut mettre il faut utiliser deux langues à la fois, mais une amende en allemand, ça se dit Mandel. Pardon?
Mandelbaum.
Mandelbaum. Mandel. Une amende. De Mandelieu, c'est la ville de Luz. Ils ne le savent pas, mais c'est Luz.
Mais c'est en cananéen ou en hybride?
De quoi, Luz?
Oui.
Vous croyez que je sais?
Je crois que je savais beaucoup.
En fait, je vous ai déjà dit que c'était en espagnol. Je vous ai déjà trouvé maintenant une ville française qui peut s'appeler Mandelieu, mais c'est le lieu de l'amandier, c'est pas rien, hein. Qu'est-ce qu'il a trouvé, lui?
Je
l'ai
dit,
Amandier. Oui, oui, toi, oui.
En français.
Non, on pense. En français dans le texte.
En français, bah oui. En contemporain.
Il y a Gâteau aussi.
Ah non?
Il y a Gâteau, Cannelouse. Le cœur d'amour. Un gâteau.
Oui.
Une pâtisserie orientale.
Non, mais c'est pas une ville.
Non.
Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres villes, il y a peut-être une ville qui s'appelle vraiment quelque chose comme Amt, mais je ne connais pas assez de langues pour trouver dans une...
Est-ce qu'il y a un rapport avec la signification qu'on donne, enfin dans le livre des prières, en tout cas, que l'amandier c'est l'arbre hâtif?
Oui, c'est juste. On va voir, on va essayer de voir.
Hâtif.
C'est
marqué Ashkedi Aporachat. Ouais. L'Ashkedia, c'est l'arbre qui pousse, c'est le qui bourgeonne en premier. Donc, Rabbi Abba, il dit Lama Nikrashma Luz. C'est parce que Kolmi chez Nichnas Ba, il trif mitzvot ou maasim tovim que Luz. Tout celui qui entrait dans cette ville, il trif. Des mitzvot et des maasim tovim comme une amande. Qu'est-ce que ça veut dire hitrif ici? Comment est-ce qu'il faut traduire ce hitrif? C'est un peu par ça que Torev, ça veut déchirer. Oui, en Ashna Kodesh.
Il y a un trif. Il y a plusieurs derrière.
Alors,
les coutumes, ils ont aussi plusieurs.
Lui aussi, ils ont traduit éclore, c'est déchiré. Les Maasim Tovim,
forcément c'est déchiré.
C'est déchiré. Donc c'est éclore en français.
La prière, c'est ça? Et la prière mitzvot, arabe. L'écoutim, vitrif, féroïne, choc. La prière mitzvot, arabe. Et puis de l'autre côté, alors là, par en dessous les sens.
Oui, la fleurie. Ouais. Comme l'amandier fleurit très tôt. On a comparé les amandes aux mitzvot et maasim tovim. Tu entres dans cette ville de Luz. Luz, c'est une ville cananéenne. Qui parle de mitzvot et de maasim tovim? C'est une ville, c'est mitzvot maasim tovim, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est? Pardon, le schéma mitzvot menor, bien sûr, c'est ce qu'on est obligé de dire, si on veut garder la cohérence ici.
Est-ce qu'on peut comprendre que le lieu lui-même avait une action bienfaisante en dehors du fait des hommes qui y étaient?
Oui, semble-t-il, mais Mais le problème, c'est qu'on parle de mitzvot massim tovim, c'est l'expression pour les mitzvot de la Torah. Et là, on peut parler uniquement des Sheva mitzvot de Bnei Noach. Il n'y avait pas de mitzvot de massim tovim, là, on est le temps de Yaakov Avinu. À moins que cela ait été un endroit privilégié. Comme il y avait un endroit, comme la Shiva de Chemin Vert, peut-être qu'il y avait aussi un endroit où on faisait des mitzvot, des massim tovim. En plus, ce qui est intéressant, c'est que même la terminologie mitzvot, elle n'existait pas. Ils n'ont pas reçu de la mitzvah, c'est le même de mitzvah, c'est metzavé, c'est le même du metzavé. Donc la mitzvah en tant que telle, la notion de mitzvah, de quelque chose qui est reçu, n'existe pas à ce moment-là. Donc le Midrash, il est parti sur autre chose. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Qu'est-ce qu'il raconte? Ensuite, on nous dit que les Rabbanan, eux, ils ont une autre lecture. La question que Rabbi Abba Bar Kahana a posée, Lama Nikrash Malouz, eux, ils répondent, Malouz, en la paix, kach lo haya adam yachol la'amod al pitcha shel ir. De la même manière que l'amande est complètement lisse, elle a pas de, il n'y a pas de creux, pas d'ouverture, donc. C'est ce qu'on utilise dans. Quand on explique qu'on donne des lentilles, que Yaakov et Esav, donc, que Yaakov fabrique cuit des lentilles pour la veloute d'Abraham Avinu. Parce que là, on dit, la lentille, elle n'a pas de paix. Parce que celui qui est aveugle, il n'a pas de bouche, il ne peut plus parler, quoi, il est. Et là, on nous dit que l'amande, de même que l'amande n'a pas de bouche, eh bien, personne ne pouvait se tenir à la porte de la ville. La porte de la ville de Luz. Qu'est-ce que c'est que ne pas pouvoir se tenir? Adam Yachol. On ne peut pas se tenir à la porte de Luz. Qu'est-ce que c'est? Lui, le Etz Yosef, il dit. שהייתה חומה מקפת אותה מכל סביבותיה ואין שום פתח בחומה. Ça veut dire c'était une ville qui était totalement entourée d'une muraille et il n'y avait pas de porte. Pas de porte. Ah, et comment on entre? Ou bien on naissait là-bas, mais comment il sortait pour même il fallait sortir pour mourir. Comment ils sortaient? Il n'y a pas de porte. Et là, ils nichnasim mitachat la choma derech me'ara kedel kaman. En vérité, on entrait dans la ville par un souterrain. D'accord? Ce souterrain-là, pour y avoir accès, il fallait, comme on a vu, en passer par une grotte, entrer dans la grotte, descendre dans la grotte, et donc passer sous la. Sous la muraille.
C'était pas à l'intérieur de la montagne.
Et maintenant, on a dit, maintenant, cette grotte-là, elle était obstruée. Parce que si la grotte est largement ouverte, alors tout le monde comprend. Mais elle était obstruée, il y avait un arbre. Et l'arbre bouchait la grotte. Il fallait savoir que l'arbre était creux. L'arbre était creux et que par conséquent, on pouvait, en entrant dans l'arbre, entrer dans la grotte et entrer dans la ville. Ça veut dire, il y avait. La grotte était un sas. Peut-être même il y avait deux sas. Il y avait un sas qui était l'amandier et un deuxième sas qui était la grotte pour pouvoir entrer dans la ville. Ici, il n'y a pas de chute. Donc, on ne peut pas entrer. Les gens qui voyaient évidemment, voyaient un amandier, ne pouvaient pas penser que c'était l'entrée de la ville. Qu'est-ce que c'est qu'une ville? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Entièrement entourée de murailles. C'est une ville totalement coupée du monde. C'est une ville qui était hors du monde. Il y avait un lieu hors du monde. Ce lieu singulier qui était Luz, il était physiquement hors du monde. C'était un lieu qui était hors du monde au sens où le Malach HaMavet n'y entrait pas. On ne pouvait pas, on n'y mourait pas. Donc il était vraiment hors du monde courant. C'était un lieu, qu'est-ce qu'on a dit d'autre?
C'est un lieu qui a échappé à la Maréchal. D'une certaine manière, parce que si on ne mourait pas, donc lui, il avait, il ne s'était pas rendu compte que ce lieu où il aurait pu s'appuyer.
Mais il y avait peut-être que c'est après.
Ah, okay.
Les êtres humains étaient mortels. En ce lieu, on ne mourait pas. Puisque ils sortaient, quand ils sortaient, ils mouraient. C'est pas un lieu d'immortel. C'est pas un lieu où habitaient des immortels. Dans ce lieu-là, les gens étaient immortels.
Mais il était immortel au début à la Maréchale.
Oui, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, les gens, c'est les gens d'après, là. C'est pas des gens qui étaient là avant ou en même temps qu'à la Maréchale. C'est des gens normaux. Il n'était pas immortel, Serge, il n'était pas immortel. Les gens n'étaient pas immortels. Dans cet endroit-là, on ne meurt pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas immortel. Ça ne veut pas dire qu'on est immortel. Puisqu'au contraire, les gens, ou d'autres voulaient pour eux, qu'ils meurent. Et donc on les faisait mourir en les faisant sortir de ce lieu-là. Mais c'est un lieu hors du monde, au sens où le Malach HaMavet n'est pas cholette, c'est un lieu où on ne meurt pas. Il n'y a pas d'histoire dans cette ville, tu veux dire? Oui. Il y a quand même des gens qui disparaissent.
Ah,
on n'a pas dit qu'il n'y a pas de Yetzer Hara. Ah, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de Yetzer Hara. Enfin, bon, si on dit que le Yetzer Hara c'est le Malach HaMavet et que le Malach HaMavet il n'entrait pas.
C'est pas mal en fait. Oui, dans ce cas-là, pourquoi il y en a qui voulaient interrompre leur vie? Pourquoi certains voulaient interrompre leur vie?
Ils en avaient marre.
Pourquoi? Oui, mais la maladie, si la maladie n'y rien n'y rentrait, et donc si on en a marre, il y a un problème.
C'est M. Amem. C'est. Ouais.
Mais c'était les Bnénoirs qui habitaient là-bas.
Et le monde entier était des Bnénoirs.
Donc. Je veux dire.
Mais les Bnénoirs non plus, il faut expliquer effectivement pourquoi. Pardon, oui.
C'était des Cananéens.
Il faut savoir pourquoi ils. Pourquoi effectivement, la question qu'ils posent, c'est pourquoi ils en avaient marre.
À un certain âge, je comprends.
Je comprends très bien, mais.
Non, mais même très tôt, on peut.
On ne dit pas qu'avant, les gens, ils ne mourraient pas comme on meurt maintenant, c'est-à-dire ils ne mourraient pas de maladie ou de. La mort n'existait pas vraiment au début. C'est pour ça qu'au début, ils vivaient des centaines d'années.
Mais ils finissaient par mourir. Ils ne mouraient pas de maladie. C'est Abraham et Yitzhak qui ont demandé qu'on vieillisse. Et qui ont demandé que. Avant, ils mouraient en éternuant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand quelqu'un éternue, on lui souhaite.
C'est comme Abraham, on n'aurait pas pu lui dire qu'il y a ses races, il avait habité à Luz. Il y a un problème
C'est pour ça qu'il n'était pas là-bas.
D'ailleurs. Est-ce que ce lieu singulier, ça fait allusion à le là où il y aurait eu l'été tournoyant, qu'est-ce qu'on voyant, ce qu'on aurait pu passer le Ganéden, ou est-ce que c'est encore autre chose?
Je ne sais pas, on va essayer d'avancer un peu. Qu'est-ce qu'on dit ici? Cette ville, elle existait, elle avait visiblement des grandes qualités. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas d'Yaakov pour constater ces Beit Hashem, mais c'était quand même un lieu où le Malach HaMavet n'entrait pas. Ça veut dire Hashem ne lui avait pas donné la permission d'entrer dans cet endroit-là, donc il n'y entrait pas. Donc ça montre, si vous voulez, c'est une idée qui... D'abord, à quoi ça vous fait penser, disons d'abord ça. D'abord, pour en terminer juste avec ce morceau-là, c'est qu'il y a cette idée qu'on ne pouvait pas entrer dans la ville. Et là, le Midrash rapporte un épisode où justement, les Bnei Israël ne trouvaient pas le chemin pour entrer dans la ville qu'ils devaient prendre. Ils ont retrouvé ce type qui leur a dit, qui leur a montré le chemin, ils ont pu prendre. Donc ça veut dire qu'il y avait d'autres endroits où, si tu ne connaissais pas le chemin pour aller prendre la ville, tu ne pouvais pas entrer dans la ville. Il y avait une autre ville, qui semble-t-il n'est pas celle-là, mais qui était une ville, ou alors c'est celle-là, à ce moment-là, plus tard, elle est devenue une ville que les Bnei-Israël ont conquise, mais qui, eux, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Ça ressemble énormément. Ils leur demandent, mais dis-nous, comment on entre dans cette ville? Et il leur a montré. Si on montre, c'est que ce n'est pas un chemin. Il leur a montré. Si on imagine qu'ils sont devant, ces gens-là, ils étaient devant une ville complètement fortifiée et entourée de murailles dans laquelle on ne pouvait pas entrer. Donc ils ont cherché, mais comment on entre? Et ils savaient bien qu'on devait entrer, mais ils ont fait le tour, ils ont vu, et on ne peut pas entrer. Et donc c'est possible que cette ville-là, c'était Luz. En tout cas, elle ressemble énormément à Luz. Et les Bnei Israël l'ont conquise. Il fallait bien qu'ils la conquièrent également. Donc, malgré tout, cette ville, il a fallu la conquérir. Et ne le faire que parce que quelqu'un leur a montré. Quelqu'un leur a montré comment on pouvait entrer. Sinon, ils n'auraient pas pu entrer. Alors.
Ils l'ont vu sortir.
Pardon?
Comme ils l'ont vu sortir, normalement.
Ils n'ont pas vu, ils ont vu qu'il était dehors. Ils n'ont pas vu sortir. Ils sont au séminaire, ils ont vu ce type de l'endroit. Là, il y a un type là qui est sorti de la ville. Où il est sorti? Comment il est sorti? Ils ont regardé, ils n'ont rien vu. Il y avait là, il y a un arbre ici, il y a une muraille. Où, comment il a fait? Pas ce muraille, c'était pas encore écrit, donc il ne pouvait pas entendre.
Mais pour la montrer, il était lui-même de la ville.
Oui, bien sûr.
Puisqu'il savait de... Et alors il était traître à sa ville?
Semble-t-il, oui. Oui, bien sûr. Rachav aussi était traître à la ville.
Oui.
Il a eu le temps de ne pas mourir avant de revenir.
Hmm?
Il a eu le temps de ne pas mourir avant de revenir.
Oui, mais parce que lui n'est pas sorti pour mourir. Il était peut-être jeune. On n'a pas dit que personne ne sortait. Ceux qui voulaient mourir devaient sortir, mais... Et ce, au nom de Rabbi Ishmael, chez nous c'est pas très clair, mais il a dit « Ma imze shelo alach ». Alors on a fait un kal vachomer, que ce type-là qui a permis au Bnei Israël de conquérir, qui n'a pas fait d'acte ni avec ses pieds ni avec ses mains, il a simplement, lui, il dit le marzouk, et rabbi remisa. C'est une remisa, il a. Voilà. Je trouve, c'est. Ici, Era la MBS bas. C'est là. Il a été sauvé, lui et toute sa famille. Et dans le Marzou, il dit, c'est Tana de Be'eliaou, il dit que Garam lo ou le Zaro ou le Chol Mishparto, Hatsala, Hatsof Kol Adorot. Il a été sauvé pour l'éternité. C'est-à-dire que celui-là, il a une chaîne ininterrompue de descendants qui vont arriver jusqu'à la fin des temps. Donc il y a un témoin en quelque sorte de cette époque, enfin une famille témoin. Il existe une famille qui vient de là et qui ne s'interrompra pas. Il y en a d'autres évidemment, des familles qui... Mais lui semble-t-il, si c'est Zaro, ça veut dire d'une certaine manière, ça s'appelle sa descendance. Donc quelque part les gens doivent être conscients qu'ils sont sa descendance. Ou bien on répète les prénoms, des choses comme ça, c'est-à-dire comme des Lévites ou des... Plus que ça, les gens qui savent de la tribu de Lévi, de quelle partie de la tribu de Lévi ils sont issus. Alors de là on apprend Israël chez Osim Chesed im Gdolehem. Qu'est-ce que c'est que ce Chesed? Qui c'est les Gdolim du clan Israël ici? De quoi parle-t-on? Est-ce que ça veut dire ils font du chesed et du gdolehem? C'est qui ça? C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est les gdolim de... Et en quoi est-ce que c'est comparable? Lui, il a fait, qu'est-ce qu'on va dire? Il a fait du chesed avec les Bnei Israël. Iralaem. Israël, je suis aussi. Comment elle marche la comparaison? Israël, qui s'occupe de faire du chesed pour les grands, leurs grands hommes, leurs Gdolim. Qu'est-ce que ça veut dire faire du chesed au Gdolim? Pardon?
Il n'a pas fait de chesed.
Lui, il n'a pas fait de chesed. Lui, il a montré quelque chose.
Il vient d'une ville où on n'en monte pas. On lui demande comment on fait pour entrer dans cette ville. Il ne monte pas. Il montre le truc. C'est un peu comme un...
Rendre service à quelqu'un, c'est faire du chesed. Quelqu'un dit, je veux entrer, je ne sais pas comment on entre. Il y a une Gemara qui dit que si quelqu'un t'ouvre la porte, tu lui dois tout. Il t'a fait un chesed, tu lui dois tout. Tu ne pouvais pas entrer, il a ouvert la porte, tu peux entrer.
Mais c'est pour remettre en cause un peu la notion de traité, parce qu'il vient d'une ville où on ne monte pas. Donc comment on fait pour entrer dans la ville? S'il ne répond pas, alors qui sait, c'est un mensonge par omission. Et s'il dit un mensonge, il dit on rentre par là et que c'est faux, c'est un mensonge. Donc il est obligé de coopérer.
Il ne montre pas n'importe qui, il montre que celui qui sait qu'il peut et qui va. En fait, il n'a pas fait avant. Il a fait juste à ce jour-là.
Mais s'il vient d'une ville, on ne monte pas.
Non, il n'a jamais fait avant. Il a fait à ceux qui devaient rentrer et il a compris qu'à cela, il va.
Oui, tu as raison, il a pas menti.
Il n'a pas d'autre choix en fait que de faire
ça. Oui, mais je crois que. Peut-être, si on veut s'appuyer là-dessus, on peut dire que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, même s'il n'a pas le choix, ça a aussi une valeur. C'est sans commune mesure avec quelqu'un qui le fait parce qu'il a le choix, mais ça a aussi une valeur en soi.
Ça fait penser quand même à l'histoire de c'est Rahab.
C'est Rahab, oui.
Rahab, j'ai lu la semaine dernière, on dit que c'est une personne qui en mentant, a gagné l'Olam Hazé et l'Olam Haba.
Oui.
Donc là, il a parlé.
Elle a dû mentir. Elle, voilà. Elle a dit que les gens sont partis là-bas alors qu'elle savait pertinemment qu'ils étaient cachés chez elle.
Il y a une autre étrangeté, je trouve, parce que si cet homme il est sorti de la ville pour mourir.
Personne ne dit qu'il est sorti pour mourir.
Quand on sort, on meurt.
Non, les vieux. En dehors, on peut mourir, mais ça ne veut pas dire qu'on meurt.
Ah oui, on redevient mortel.
Oui, enfin, oui. À cet endroit-là, on n'est plus protégé par la muraille, quoi.
Non, parce que les gardes, lui font grâce de la vie. Donc, voilà. Il était sorti pour mourir, et on s'est tué la race. Et bon, d'accord.
Il y a quelque chose qui m'interpelle. Si j'ai bien compris, cette prise de la ville, c'est privé, c'est lors des.
La conquête de Yoshua.
La guerre de Yoshua. Doit dégager tout ce qui est canard. Alors, quel est curieux ce statut de cette ville-là qu'on appelle Loud, qui quand même apparemment a des mérites, puisque on n'y ment pas, on n'y dort pas, etc. Et néanmoins, ça ne lui permet pas d'être sauvée, et elle a le même statut que n'importe quelle ville canadienne, il faut passer par les plaies.
Oui. Il n'y a pas de justice.
Un seul égard.
Est-ce que le Midrash...
Ils n'ont pas de langue.
Pourquoi?
Ils ont pas de bouche. Parce que le problème des négations, etc. La construction de la langue.
Qu'est-ce que tu dis?
Moi, une question, c'est est-ce que le Midrash vient quand même montrer ici que, comme c'est l'endroit finalement où il y avait la pierre, où normalement c'est là qu'il va y avoir le temple, et d'une certaine façon, c'est pour nous montrer qu'il y a un endroit qui peut être Kadosh par rapport à d'autres endroits. Est-ce que ça ne vient pas indiquer ça, ce Midrash, d'une certaine manière? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas la première fois finalement qu'on montre un lieu de sainteté, enfin de séparation, ce que ça veut dire aussi séparation, entre la sainteté et puis.
Qui était destiné à
être. Le reste, qui est des.
Oui, c'est juste. C'est tout à fait juste, mais c'est ce qu'on a dit, c'est un lieu hors du monde, comme le Beth Amikdash est un lieu hors du monde. C'est un lieu où on ne meurt pas. C'est un lieu, c'est le lieu de la vie, c'est la résidence d'Hachem, donc c'est le Koachim, c'est la source de la vie.
Mais pourquoi en avoir fait penser qu'elle a plus de vie? N'aurait-il pas suffi que justement la présence de Yaakov et de ses visions avec les chaînes, les anges, etc., où il a compris que ça se passait ici, pourquoi ça n'aurait pas suffi à rendre Kadosh cet emplacement, ce Makom, et que le Midrash ait besoin de parler de cette ville de Loud, etc.
Mais vous, le problème, c'est pas que le Midrash ait besoin, c'est cette ville-là, elle existe, il faut en parler. C'est pas, on ne peut pas en faire l'économie. Et si cette ville-là, elle est présentée, c'est qu'il y a là quelque chose de fondamental pour comprendre un peu. Ce qui se joue, ce que Yaakov met en place, n'est-ce pas? Tout ça, c'est la chose que Yaakov a mise en place avant de partir en Galoute, en fait, avant de partir chez Laval. Il met en place une structure qui, pour lui et pour toute sa descendance, c'est la préparation pour le Galoute. C'est intéressant que cette préparation pour le galoute de quelqu'un qui est en train de partir en galoute, qui prépare donc le galoute et toutes les galouillottes, ça passe par un stade où il y a l'endroit qui va devenir l'endroit du Beth Amikdash. Il le met en place aussi d'une certaine façon. Quand il dit cette pierre-là, ce sera le lieu du Misbéach, et cet endroit-là, ce sera le Beth Amikdash, etc. Il met en place le Beth Amikdash avant de partir en galoute. Comme si effectivement, avant de partir en galoute, il fallait mettre en place ce Bétamigdash dont on n'aura pas l'usage pendant qu'on sera en galoute, il va même être détruit. Mais nous, on est partis en galoute après la destruction du Bétamigdash. Et lui, il part en galoute après avoir mis en place la construction, si on peut parler, du Bétamigdash.
C'était pour prévenir les futurs. Au début, ils n'ont pas pris Jérusalem. Le Bétamigdash, au début, ils ont été à Sichem, je crois. C'était Sichem, la ville principale. Donc, c'était pour les prévenir. Voilà.
Chile.
Chilo.
Oui.
Je ne sais pas s'il fallait les prévenir, c'était pas encore le moment, probablement.
Mais la conquête, c'est pas Josué, c'est David qui a conquis.
Ah non?
C'est pas Josué qui a conquis la ville, c'est David.
La ville de Yerushalayim, il l'a conquise par la suite, mais là, visiblement, Yaakov Avinu, il l'a fait en sorte que cette ville-là, elle puisse être conquise. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors, est-ce que David, il est Machlim, est-ce qu'il lui complète la construction de la conquête de...
C'est pas une démarche similaire avec la Marpella?
La Marpella, elle va pas servir à toute l'Israël.
Mais c'est une emprise.
Mais sur la terre, oui, c'est une trace sur la terre d'Israël, oui. Quoi? Qu'est-ce qui arrive? Oui, non, mais il dit pas que c'est Marpella, il dit que c'est analogue à Marpella.
Mais là, quand même, au début du Midrash, il parle de l'huile, et c'est là aussi où les rois. Parce que c'est l'onction,
oui.
Donc
c'est
un rapport avec la
religion. C'est pas le lieu, c'est pas Reims. Hein. L'onction, elle se faisait n'importe où, je veux dire, là où Shmuel voulait. Mais le. Cette ville-là, la question qui a été posée, donc, pourquoi est-ce qu'il fallait éradiquer littéralement? Il fallait vider cette ville de son contenu cananéen, en fait.
De son
importance. Oui, quelque part, Oui, il faut les tuer, parce qu'il faut, extirper tout le cananéisme, enfin, toutes les traces de Canaan dans cet endroit-là. Et ça s'est fait bien avant que cet achat. Il n'a pas conquis la ville, David a acheté le terrain. Mais la conquête, visiblement, elle date de ce moment-là. Et tout de suite, il faut mettre en place, il faut éradiquer d'une autre manière, semble-t-il. C'est-à-dire, il faut entrer à l'intérieur et... Si vous voulez, ça ressemble à la chose suivante. Il y a dans les peines de mort, il y a une peine de mort qui s'appelle Srefa. La peine de mort Srefa... C'est une peine de mort qui laisse l'enveloppe corporelle intacte et on brûle l'intérieur. Et ça me fait penser à cette histoire de cette ville qui est complètement fermée, mais on va entrer, éradiquer complètement, enlever complètement Canaan, comme on le fait, comme ce feu qui détruit. Pourquoi? Parce que cette Srefa, elle vient pour quelqu'un qui a transgressé la Gdusha d'Israël. C'est pas. Ça vient, Bat Cohen chez Techeliznot, et ta vie à etc. Parce qu'il y a de la Gdusha en plus, alors elle a Srefa. Et Srefa, ça vient donc montrer que on s'intéresse à la pureté de l'intérieur. Il ne s'agit pas, on n'a jamais fait un bûcher où on aurait brûlé les gens, ce n'est pas de ça qui se passe. C'était présenté comme une façon de détruire l'intérieur, de brûler l'intérieur du corps, en laissant l'enveloppe corporelle intacte. Parce que de l'extérieur, le problème de la transgression de la Gdusha, c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est Kadosh et tu l'as profané. Bon, c'est pas marqué sur le bout de son nez que c'est profané. Quelqu'un qui profane quelque chose, ben on ne voit pas que c'est profané. C'est pas, c'est, ça ne se montre pas. Donc la sanction, elle est, tu vois, c'est une profanation qui ne se montrait pas, mais il y a une dimension de profanation dans ce qui a été fait. Et donc, je crois que ça c'était pour montrer qu'il fallait extirper quelque chose de l'intérieur, et c'est justement sur une ville comme celle-là qui était imprenable, qui était complètement entourée, où de toute manière on ne pouvait pas entrer comme ça, on était obligé d'entrer par-dessous, pour entrer dans l'intérieur de la ville directement, sans franchir des portes. Là. Et là-bas il fallait tuer tout le monde. Bon, alors ça c'est toujours le problème, pourquoi on tue les femmes, les enfants, etc. Mais dans l'idée, c'est ça, je crois. Dans l'idée, c'est fabriquer un lieu dont on aurait enlevé complètement, tout en le laissant tel quel, enlevé complètement les traces de l'impureté. Toute la touma de Knaan, on l'enlève, de cette manière-là.
Mais en même temps, c'est une ville de vertu et de bonnes œuvres.
De
vertu et de bonnes œuvres.
On dit que oui, on voit que les gens qui entraient là-bas avaient des ma'asim tovim et des mitzvot qui éclataient, donc tout à coup ils se mettaient à faire des mitzvot. Alors, qu'est-ce que vous diriez ?
Du
shaker. Oui. Ils font des ma'asim tovim, etc. Mais en fait, ces mitzvot, ces ma'asim tovim, en fait, ils étaient liés au lieu. Dans ce lieu-là, ça éclatait, comme s'ils y étaient pour rien, quoi. Quelque part, on était tellement porté par le lieu que bon, les gens faisaient les mitzvot. Et ils se prenaient pour des gens qui avaient fait un travail. C'est-à-dire que c'est au fond une critique de toutes les mitzvot qu'on fait par habitude ou parce qu'on a été éduqué à ça. Alors tu crois que tu fais beaucoup de mitzvot, mais tu n'as rien fait du tout. Tu n'as fait que singer. Ça s'est fait tout seul, parce que c'est des mitzvot d'Hashim Melumada, c'est des mitzvot qui sont faites par quelqu'un qui n'a jamais réfléchi à la question. Bon, ça éclot comme voilà, on l'a pas planté, cet amandier. Les mitzvot, elles éclosaient dès qu'on entre dans cet endroit-là. Mais ça a déjà une valeur pour le ministre. Il a été sauvé même pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il a fait la mitzvah. Alors pourquoi est-ce que eux, les autres là-bas, ils ne sont pas sauvés ? Quelle est la différence entre ce que lui, il a fait pour les Bnei Israël et eux, ils font pour les Gdolei HaTorah, et les autres, ils ont des mitzvot. Les mitzvot, ils ont des mitzvot et ma'asim tovim, semble-t-il, pour Hachem, non ? C'est ça la grande différence, je crois. C'est que les mitzvot et les ma'asim tovim qu'on faisait là-bas, dans cet endroit-là, c'était les mitzvot et les ma'asim tovim qu'on fait parce que, voilà, ça se fait. Les Bnei Israël, effectivement, c'est pas un lishma extraordinaire. C'est pas ce qu'ils font. Ils le font pour les deux. Mais ils le font, sauf, ça sert au développement de la Torah. Tandis que les ma'asim tovim et les mitzvot que faisaient, ça sert pas à développer la Torah, on dit pas qu'on est la Torah là-bas. Même si en fait on parle de cananéen et tout ce qu'on veut, mais on ne voit pas qu'il y avait. Il faisait des gestes très positifs, mais on peut vous dire que ça n'avait pas d'âme en quelque sorte. Mais on en faisait. Alors maintenant, on peut faire des gestes qui ne sont pas parfaits, qui sont faits pour d'autres, mais c'est du chesed, intéressé comme tu dis peut-être, mais avec ça ils sont. Il se branche sur la Torah. Je vous rappelle que quand, dans la Gemara, dans Avodah Zarah, au début de la Gemara, quand Hashem Baruch Hu dit que tous ceux qui ont à voir avec la Torah, qu'ils viennent et qu'ils reçoivent leur salaire, Et quand les Romains viennent, ils disent, mais nous, on a fait des tas de trucs. Par exemple, on a fait des foires pour que dans lesquelles les Bnei Israël ont pu venir faire du commerce. Et ils ont réalisé en quelques semaines de quoi gagner leur vie, puis ensuite ils pouvaient se rentrer chez eux et étudier. Il a dit, il n'y avait aucune générosité chez vous. Et donc ça vaut rien du tout. C'est-à-dire, ils ont dit, mais on a, ou bien, alors, Adolphe, il va venir, il dit, mais moi j'ai construit les autoroutes, et les Juifs, ils peuvent rouler sur ces autoroutes, et ça, ils gagnent du temps, ils vont pouvoir aller en même plus. À la fin de l'histoire, ils comprendront bien que ça a été utilisé pour les Bnei Israël. Et il va dire, ouais, oula, ici, pour aller à cette yeshiva-là, on a utilisé mes autoroutes, donc j'y suis pour quelque chose. Et si on ne peut pas leur montrer qu'il n'y a aucune générosité, alors oui, c'est lointain, mais ils ont une part. Donc les Bnei Israël qui font, comme tu dis, de façon Shelolish pour les Gdolim, etc. Mais ils font pour Gdoléem, pour les gens qui étudient la Torah. Donc ils ont une part à la Torah. Ils ont une part parce qu'ils sont branchés sur la vie. Tandis qu'eux, là-bas, ils ne sont pas branchés sur la vie.
Je voulais demander, s'il y a un endroit qui est propice à ce que les gens se comportent bien, alors dans ce cas-là, parallèlement, il y a un endroit comme Zom qui est peut-être lui aussi propice par l'ordre lui-même. À faire
de
gens,
de produits. On n'en sait rien. C'est... Mais en fait, bon, ils auraient peut-être dû. Peut-être qu'il fallait en partir de ce dôme. Si l'endroit est un endroit. Il y a des halakhot. Dans quels endroits on a le droit de rester? Alors, on va s'arrêter là.
Le
trif, là, il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui disent Terev, c'est la nourriture. Mais itrif, si c'est la chaîne très fasse, ça va être déchiré. Et donc éclore, ça va très bien. Ça se déchire, tout ça.
Alors, j'ai trouvé dans une espèce de. Comme. Facebook, en fait, une boucle israélien. Il y avait une fille qui parlait de sa vie en hébreu. Et elle disait. Itrif lit. Comment dit l'exception je sais même. Arrochim.
Ce que ça veut dire, enfin. Très fin, c'est ce qu'on a eu de Yosef, qui a dit, Tarov, Tarov, Yosef, Yosef a été déchiré par une bête.
Avec tête, hein?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il est allé chez un frère? Il apprenait la quelle Torah il apprenait?
C'est rien. Oui, sans doute. Non, même aussi peut-être des sodotes. Des sodotes. Je pense des sodotes.
Est-ce que la Torah c'est Moshe Rabbeinu qui l'a donné?
Ah non.